Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Des angles à 5 degrés, c'est pas grand-chose. 15, 20 degrés, c'est commence à se voir, mais c'est pas méchant. 90 degrés, c'est énorme. Moi, j'ai eu même expérience d'un pénis en fer à cheval. Le gland touchait le nombril.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout s'explique, le podcast sur la sexualité de 20 minutes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de pénis courbé ? Pénis penché, pénis tordu, peu importe. Vous-même, vous avez peut-être remarqué que votre pénis ou celui de votre partenaire a récemment changé de forme ou qu'il penche un petit peu plus que d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène qui n'a rien d'inquiétant mais qui porte un nom un petit peu savant, la maladie de la péronie. Et oui, c'est un problème connu en urologie et qui concerne bien plus d'hommes qu'on ne le croit. Mais le problème, c'est que quand on cherche sur internet « pénis courbé » ou « maladie de la péronie », on tombe facilement sur des explications assez indigestes. Par exemple, Wikipédia.
La maladie de la péronie est une sclérose des corps caverneux.
Je te floute-fli.
Rien compris ? Pas de panique. Pour y voir un petit peu plus clair, j'ai passé un coup de fil à Vincent Huppertan. Il est urologue et auteur de l'Encyclopénis, publié en 2019. La première question que je lui pose, est-ce qu'il peut nous résumer simplement ce que c'est la maladie de la péronie ?
C'est une maladie qui est psychologiquement dévastatrice. En quelques semaines, l'érection, qui est quelque part le symbole et l'expression de la vérité masculine et de la fierté, perd longueur, rectitude et érection. Parce que c'est comme ça qu'on définit un bon pénis, le phallus. C'est l'érection, il est droit et il est long. Et quand vous perdez ça, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est une catastrophe de l'intime parce qu'on est seul face à la maladie. Parfois, la partenaire, elle est là, mais ça peut être juste un problème parce que c'est de la pression, il y a des mythes, il y a des croyances. Donc, c'est une maladie qui est terrible.
Et concrètement, alors, quels sont les premiers symptômes ?
Ce qui compte, c'est que le pénis qui avant était beau, on était fiers, c'est plus comme ça. Ça peut être plus court, il y a une perte de longueur, mais ce qui est le plus évident, c'est la déformation. C'est une déformation acquise. C'est qu'avant, il y avait une forme, on la connaissait depuis toujours, et tout d'un coup, il y a une angulation, il y a un angle qui se fait vers le haut, vers la droite, vers la gauche, qui entraîne aussi la perte de longueur et en même temps la perte d'érection. Donc, il n'y a pas de forme unique, mais l'essentiel, c'est que c'est plutôt la déformation. C'est ça qui est l'élément clé, c'est ça qui marque les hommes, c'est que c'est une déformation acquise.
Et donc cette déformation, elle arrive au bout du pénis et elle peut être vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas ?
Il n'y a pas, il n'y a pas de sectarisme. Hein. Majoritairement, c'est vers le haut. Mais on a toutes les combinaisons possibles, vers le haut, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, des angles à 5 degrés, c'est pas grand-chose, 15, 20 degrés, c'est commence à se voir, mais c'est pas méchant, 40 degrés, c'est beaucoup, 90 degrés, c'est énorme. Moi, j'ai eu même expérience d'un pénis en fer à cheval. Le gland touchait le nombril. Le gland touchait le nombril. Donc, quelle sexualité peut-on s'imaginer avec un pénis qui a une telle déformation qui est dramatique?
À quel moment il est important de consulter?
Dès qu'on observe que le pénis est déformé. Alors, il y a un petit apparenté, une chose, c'est qu'on voit aussi des gens qui consultent pour soi-disant maladie de la péronie parce qu'ils ont trouvé sur Internet, sur un site, par-ci, par-là. Mais en fait, en pratique, le pénis a toujours été comme ça. Il faut savoir que le pénis n'est pas droit. Le pénis, ce qu'on a, ce n'est pas celui du porno. Hein. Ce n'est pas la taille. Le pénis n'est pas droit. Le pénis, il est souple, il n'est pas droit. Là, la maladie de la péronie, c'est quelque chose d'acquis. Donc avant, il y avait une forme, et il y a cette déformation qui survient, c'est l'élément clé. Dès qu'on observe ça, il faut consulter. Il y a quelques signes qui annoncent, par exemple la douleur, il y a toujours une douleur, il y a un nodule, parce que c'est une maladie inflammatoire. Il y a un nodule qui apparaît, qu'on palpe, qui est douloureux. L'érection est douloureuse. Là, également, il faut consulter.
Un nodule, concrètement, c'est quoi ?
On parle d'une espèce de cicatrice, une espèce de, ça peut être comme une monnaie de 2 euros, ça peut être comme une noisette, comme une noix qui est au niveau du gland, qui est au milieu, qui est à la base, qui va évoluer vers cette déformation acquise du pénis.
Donc c'est important de rappeler qu'il n'existe pas un pénis normal. Qu'un pénis, il peut pencher d'un côté ou d'un autre. Ce qui est important de relever, c'est la transformation, si on observe une modification.
Exactement, exactement. Voilà. Il n'y a pas de cas pareil. On a des statistiques, mais c'est une approche très individuelle. Mon pénis, avant, il était comme ça. J'étais plutôt satisfait du pénis, ma sexualité avec ma partenaire ou mon partenaire, il n'y avait aucun problème sur le plaisir, la sexualité épanouie, et tout d'un coup, c'est une déformation, douleur ou pas douleur, je consulte, je vais voir un urologue, éventuellement un urologue spécialisé, pour une prise en charge rapide.
Est-ce qu'on connaît le pourcentage de la population qui est concernée par cette maladie ? On voit des chiffres circuler. Moi, j'ai vu 9%. Est-ce que c'est sous-évalué ?
Alors, tous ces chiffres-là, comment vous les... Voilà, déjà, vous voyez, on voit qu'il y a plein de gens, on sait qu'il y a plein de gens qui ne vont pas consulter. On sait qu'il y a plein de gens qui doutent. Il y a plein de gens qui ne sont pas gênés finalement, c'est pas ça. Il y a plein de gens qui ont honte. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à des urologues. Je ne vais pas parler de la maladie, à savoir ces déformations. Je vais parler de la cicatrice, de lésion. Qui explique des études autopsiques, on a montré des lésions compatibles avec des cicatrices de l'albuginée comme maladie de la Peyronie sur un homme sur 5. Voilà. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas rare, c'est quelque chose de fréquent. Donc dire qu'un homme sur 10, c'est quelque chose qui me paraît très simple à retenir, juste pour souligner que finalement on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce n'est pas une maladie rare, ce n'est pas aussi rare qu'on le croit.
Est-ce que cette maladie, elle est visible uniquement à l'érection ?
Oui, parce que, alors, à l'état flaccide, à l'état de repos, quand j'examine les patients, quand on les examine, effectivement, on va ressentir des plaques, des duretés, mais c'est l'expérience, c'est qu'il y a plein de patients, docteur, je ne sens pas, il y a une érection, et moi je l'examine, mais écoutez la plaque, voyez la plaque, donc ils sont tout de suite. Donc, à l'état flaccide, c'est rare, hein, ce n'est pas toujours le cas, ah, voilà, mais on croit, il y a des gens qui peuvent la ressentir, mais c'est parce que, notamment, quand ça fait mal, on appuie, tiens, ça fait mal, on sent un nodule douloureux. Et là, il cherche sur Internet, maladie de la Peyronie, il consulte.
Donc, c'est possible quand même de le voir, même à état de repos, juste avec l'apparition d'un nodule ou des douleurs.
Enfin, c'est pas tellement visible, c'est palpable, on ne voit pas grand-chose. À repos, on voit quasiment rien. C'est vraiment, c'est avec les doigts, le diagnostic, c'est avec les doigts, c'est l'examen clinique, on se palpe, on se touche soi-même, ou visible uniquement en érection.
Et est-ce qu'il y a un moment dans la vie d'un homme où cette maladie arrive peut-être plus qu'à d'autres moments de la vie ? Est-ce qu'il y a un âge où on est plus susceptible de développer cette maladie ?
On a des chiffres qui varient. Mon expérience, c'est autour de 40-50 ans. Mais 40-50 ans, j'ai eu le plus jeune, il avait 25 ans. Vous voyez, quand vous avez à 25 ans ça, c'est quand même terrible. Donc voilà, on sait qu'il y a un âge qui correspond pour 40-50 ans. Mais on peut la rencontrer, cette maladie, à toutes les périodes d'un homme en activité sexuelle.
Ouais, j'aimerais qu'on parle maintenant des conséquences que cette maladie peut avoir sur le quotidien des personnes. Quelles sont les premières conséquences que vous observez d'un point de vue du handicap dans la vie courante ?
Premièrement, c'est une maladie qui est à la fois qui est un désastre psychologique, à la fois qui est un paradoxe. Hein, et c'est aussi une maladie qui, avec beaucoup de mythes, avec, il y a quand même des possibilités de traitement. Premièrement, le désastre, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Tout s'écroule. Je disais, le ciel vous tombe sur la tête, votre sexualité, vous êtes épanoui, tout allait bien dans votre couple, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Il y a la perte, il y a la déformation qui est évidente et visible, on ne peut pas tricher avec la perte. Il y a l'aspect psychologique, l'érection est moins bonne, moins stressée, on est dans l'évitement, en plus ça fait mal, c'est compliqué. La partenaire se pose des questions, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas une maladie, c'est pas une IST, c'est pas une infection, c'est pas un cancer, toutes ces questions-là. Donc, tout s'écroule. Voilà, la sexualité se fonctionnait, et donc selon le ressenti chacun, selon la situation de chacun, c'est pas pareil. Quelqu'un qui est divorcé, qui est séparé, qui a rencontré épisodique avec des partenaires, quelqu'un qui est en couple depuis des années, donc ils se connaissent avec leur partenaire, il y a beaucoup de complicité qui permet de passer à autre. Il y a pas de situation qui est unique. Donc c'est cette souffrance majeure. Ils sont tous en souffrance, tous désespérés quand ils consultent.
Mais concrètement, est-ce qu'il y a un danger pour la vie si on extrapole ?
C'est le paradoxe. C'est une maladie qui est sur le plan organique, qui est mineure. C'est une cicatrice. Il y a plein de gens qui ont des cicatrices sur le visage. Ils ne sont pas plus inquiets que ça. Voilà, donc c'est une cicatrice, donc c'est mineur. La lésion est toute petite. Ça n'évolue pas. On sait que... elle fonctionne en deux étapes. C'est une maladie inflammatoire avec une phase aiguë. Les premiers 6 mois, mais généralement, c'est dans 15 jours, 3 semaines, la maladie est stabilisée. C'est rarement que ça évolue. Une fois stabilisée, elle ne bougea plus. C'est pas un cancer.
Je voulais reparler de la sexualité. Est-ce que c'est possible d'avoir une sexualité avec cette maladie, tout simplement ?
Heureusement. Heureusement qu'on a une sexualité. Bah, tout dépend aussi de ressenti, de la partenaire. Il faut continuer à avoir une sexualité. Certes, il y a une période courte avec la douleur. Hein, la douleur est présente, donc du coup l'érection est pénible, on va l'éviter. Mais la douleur disparaît toujours. Et puis, la plupart des déformations, c'est de 20, 10, 20, 30 degrés. Ce n'est pas des méga déformations. Ça peut correspondre à quasiment une forme normale. Si la partenaire ne te connaissait pas avant, personne ne saura, à part toi-même avec ta mémoire et ton histoire, personne ne saura. Donc, la plupart des gens ont une sexualité qui est tout à fait normale. Le gars, je vous parlais, c'est lui qui avait pénis à faire à cheval, mais ils étaient dans une complicité fantastique avec sa partenaire. Ils arrivaient à pénétrer avant l'érection complète. Hein, ils jouaient avec avant là, voilà. Et donc finalement, pendant, ils avaient un rapport qui était tout à fait correct. Ils arrivaient justement à jouer autour de ça. Et donc c'était pas du tout un problème en soi.
Ouais. Et puis on peut peut-être aussi rappeler que la sexualité ne se limite pas non plus à la pénétration et qu'elle peut être explorée de manière très différente aussi.
Il est clair. Sur le plan physiologique, sur le plan identitaire, l'érection. Certes, ce n'est pas le alpha et l'oméga, on est tout à fait d'accord, mais on ne peut pas non plus rester complètement en dehors. La pénétration crée une connexion physique qu'aucune fellation, cunnilingus ne va les créer. Il y a une espèce de double connexion. Vous êtes connexion psychique avec l'autre parce qu'elle entre. Il y a cette connexion dont on parle souvent des neuromiroirs, une espèce de connexion empathique, amoureuse, affective. Et deuxièmement, il y a une connexion physique. Et parce que les autres connexions, il y en a un giver, un qui donne, un qui reçoit. Hein? Or, que dans la sexualité pénétrante, c'est du donnant. Donc, c'est les deux. Il y a une espèce de symétrie des échanges que la sexualité alternative ne va pas remplacer.
Alors, c'est une maladie, la maladie de la Peyronie. Du coup, forcément, est-ce qu'il est possible de guérir de cette maladie ? Est-ce qu'il y a des traitements pour corriger et pour réparer cette cicatrice ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la distinction entre la maladie, c'est-à-dire la cicatrice inflammatoire qui se stabilise, hein, et la déformation. On a des demandes, docteur, je veux qu'elle soit comme avant, je veux retirer, je ne veux plus, sortez-la, opérez-moi, coupez, faites ce que vous voulez, je ne veux plus de cicatrice. Ce n'est pas possible. Hein. On ne pourra jamais revenir à l'état initial du pénis. Tous les traitements qui existent, chirurgicaux et non chirurgicaux, s'adressent à la déformation, en essayant de limiter la perte de longueur, et à l'érection. Donc, c'est les trois éléments clés du phallus. Hein. C'est l'érection, rectitude et déformation. C'est là-dessus on traite la plaque, mais pas pour faire disparaître la plaque, c'est pour corriger les trois pertes de l'homme et de son pénis en érection.
Et comment vous expliquez qu'il y a un tel tabou sur cette maladie, que des hommes ne soient pas informés dessus, que des hommes n'osent pas venir consulter ? Comment vous l'expliquez ?
Bah, déjà, c'est le tabou de la sexualité. On voit très bien combien de gens ils sont, combien, quand vous regardez les chiffres de la dysfonction érectile, il y a des études qui nous disent qu'un homme sur 3, un homme sur 4 présente des troubles érectiles et qu'on voit très peu de gens qui consultent. il y a quand même un écart. Hein. Quand on voit l'écart entre l'achat des médicaments sur Internet, des contrefaçons à des pays étrangers, hein, ils sont prêts à payer des centaines d'euros, soi-disant c'est discret, et en même temps, ils hésitent de venir consulter un médecin pour une prise en charge. Déjà, la sexualité, c'est un tabou. Et l'érection encore plus. Donc, il y a cette histoire, on s'accroche à cette image de fierté, de mon sexe, ma vérité. Docteur, avant j'étais monsieur Jean, j'allais en boîte de nuit, j'étais monsieur Jean de 25 cm. Maintenant, je ne suis plus rien, comme si le fait qu'il a une petite déformation, ce n'était pas grand-chose. Une petite déformation, il n'est plus monsieur Jean de la boîte de nuit.
Vous avez des témoignages comme ça de vraiment des hommes vraiment inquiets pour leur virilité ?
Mais ce sont terribles, ce n'est pas des témoignages, c'est une consultation. Il y a beaucoup de réconfort, il faut beaucoup de rassurance, il y a une souffrance. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la médecine occidentale, c'est une médecine orientée vers l'efficience, vers l'efficacité. On a la maladie, on sait ce qu'on fait, on fait ça. Or, on oublie qu'il faut écouter les gens, on oublie qu'il faut écouter les malades avec leur souffrance, on oublie de se mettre à leur place, créer un lien empathique. On ne sait pas faire ça. On est très efficient. On leur dit, écoutez, vous avez la péronie, ce n'est pas grave, OK, on ne meurt pas. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut pas arrêter la maladie, d'accord. On fait quoi? Ben, je vous donne des traitements pour l'érection et puis on verra après le reste. Voilà. Non, on a besoin de comprendre. Et une fois compris, il y a quand même aussi de l'espoir. Certes, il n'y a pas de traitement pour faire étirer la plaque. Mais il y a quand même des avancées parce qu'on nous dit la médecine, les médecins s'en fichent, il n'y a pas d'études. Des équipes du monde entier travaillent tous les mois. Il y a plein de publications sur Internet, dans des publications scientifiques pour des avancées, pour des nouveaux traitements, pour des nouvelles approches. Donc, on a des solutions. Certes, elles ne sont pas parfaites. On a des traitements chirurgicaux. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. La chirurgie dans la maladie de la péronie, c'est exceptionnel. C'est vraiment des cas désespérés, des cas graves. Mais par contre, on a tous les traitements conservateurs, à savoir, on n'opère pas, mais on essaie de récupérer l'érection. Et on essaie de récupérer rectitude et longueur. On a la mécanothérapie, la tractothérapie. On a des traitements intralésionnels, c'est-à-dire on va des produits qu'on va administrer dans la plaque sous anesthésie locale. Donc encore une fois, on ne fait pas disparaître la plaque. Mais si vous arrive quelqu'un avec une déformation à 40 degrés et que vous limitez plus qu'à 20, à savoir à peine visible, bah c'est déjà gagné, vous voyez, c'est déjà gagné.
Merci beaucoup, docteur Huperton. Si vous souhaitez en savoir plus sur la maladie de la péronie ou sur d'autres choses liées à l'urologie, Vincent Huperton anime lui aussi un podcast qui a le même titre que son livre « Encyclopénis ». Il est aussi actif sur YouTube et son prochain live sera consacré à la contraception masculine. Ce sera le 26 septembre à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique. S'il vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.